Je voulais évidemment vous remercier infiniment d'être ici. Il y a des gens qui viennent de très loin, qui se sont levés très tôt. Ça nous touche beaucoup. J'espère que ces journées répondront, en tout cas on va s'y employer, à vos attentes. Je voulais remercier aussi, de manière très très brève, mais c'est important de le faire, même si c'est un peu fastidieux, les gens qui ont permis l'organisation de ces journées. Merci au CHU de Bordeaux, merci au Conseil régional d'Aquitaine, merci à la faculté de Bordeaux 2, merci à l'équipe de Congrès, merci au comité d'organisation qui réunit des gens de Montpellier, de Nantes, de Toulouse, évidemment du CAPS, donc de Bordeaux. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une petite, toute petite digression sur la constitution de ce comité d'organisation, parce que c'est un peu l'histoire qui aboutit à la création et à la réalisation de ces modestes journées de psychopathologie. L'histoire commence il y a 10 ans, en 1998. Alors, c'est un peu personnel, mais je termine alors une peu brillante carrière de rugbyman et je suis à Paris. J'ai par miracle la chance de remporter une finale. Je suis à Paris et le lendemain de cette finale, c'est un dimanche, je suis invité sur une émission messianique du sport, Stade 2, que vous connaissez. Et donc le lendemain d'une troisième mi-temps digne de ce nom, je suis un peu embrumé et il y a sur le plateau une femme qui s'appelle Marie-Georges Buffet qui vient d'arriver dans son grand fauteuil de ministre des Sports. Et nous échangeons, en tout cas elle échange, moi je dors à moitié, mais le contact passe bien et on commence à se voir et on commence à réfléchir. Elle vient d'arriver au poste et c'est l'affaire Festina. Et donc, elle a un chantier énorme à entreprendre. Et à partir de là, on commence une réflexion, elle évidemment à son niveau et moi à tout petit niveau, sur un regard médical sur d'abord sur le dopage. Alors, nos discussions aboutissent à beaucoup de divergences avec Marie-Georges Buffet. Elle fait une loi dont, je lui ai dit, je critique bien des aspects. Mais en tout cas, la réflexion est lancée et l'idée qui naît à cette époque-là dans mon esprit, c'est de créer une consultation sur la santé mentale des sportifs. La littérature regorgeait déjà à l'époque, et évidemment encore plus aujourd'hui, mais depuis les années 60, et vous le savez, d'articles traitant des troubles du comportement alimentaire, traitant des troubles dépressifs, traitant des troubles anxieux des sportifs, mais en clinique, il n'y avait pas, en tout cas, à l'époque, de structure dédiée. Il y avait un décalage entre la littérature, la théorie et une réalité clinique qui, parce que l'accès aux soins est difficile, parce que beaucoup de résistance dans ce milieu-là, cela nécessite beaucoup d'efforts. Donc la création de cette consultation a été un chantier qui a mis 2 ans à aboutir, qui a abouti non pas grâce à Marie-Georges Buffet, mais à un autre ministre dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui s'appelle Bernard Kouchner, qui était secrétaire d'État à la Santé à l'époque, et juste avant de partir au Kosovo, qui a poussé le dossier de manière efficace et qui a permis, en 2000, donc, l'ouverture du CAPS. Ça nous a permis de travailler dans une tranquillité, dans un certain confort. Un autre ministre a joué aussi un rôle important, celui qui a suivi Marie-Georges Buffet, c'est Jean-François Lamour. Dans l'activité du CAPS au départ, on orientait évidemment, comme on le voulait au tout début, beaucoup sur la psychopathologie, sur la clinique, sur le soin. Une activité par contre s'est présentée à nous et on en a mesuré tout l'intérêt, c'était plutôt la prévention et le bilan. Lors d'une discussion avec Jean-François Lamour, il a tilté sur l'idée d'obliger ou de rendre obligatoire le bilan psychologique dans la kyrielle d'examens médicaux, mais qui était de manière quasi exclusive somatique à l'époque, de rendre obligatoire un bilan psychologique dans les examens médicaux des sportifs de haut niveau et des jeunes sportifs en filière d'accès haut niveau. Il fait passer un décret en 2004 qui est assez évasif, puisque certains d'entre vous ont été associés à des travaux dont je vais parler. Le bilan psychologique était intégré à la visite de médecine générale, donc ça laissait la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Si bien que, après ce décret en février 2004, il convient, je parle de Jean-François Lamour, il convient qu'il faut définir un cadre beaucoup plus clair de ce bilan psychologique qui, dans les pratiques, ne se réalisait ni mieux ni moins bien qu'avant. Et il fallait être plus explicite, plus descriptif des objectifs et des moyens qu'on voulait mettre au service de l'équilibre psychologique des sportifs intensifs. Et donc, création d'une commission, dont beaucoup d'entre vous ont fait partie, et qui là a permis, et je crois que c'est certainement le point de départ de ces journées, a permis de réunir des gens d'horizons divers, de voir qu'on était tous les uns les autres, pas tout seuls dans notre coin. Alors on le savait pour Montpellier, parce qu'à l'époque de 98, c'est là où dans les couloirs du ministère, je rencontre pour la première fois le professeur Billard, qui crée à l'époque aussi Écoute Dopage. On garde un lien ténu avec Montpellier depuis 98. Dans cette commission créée par Jean-François Lemour en 2005, eh bien, on voit les gens de Nantes, de Grenoble, de Toulouse, de l'INSEP, bien sûr. On est à peu près, je crois, on se rejoint sur bien des points. Il y a des contradictions sur la forme. On arrive quand même, au bout de 6 mois de travail et avec beaucoup de joie, à définir un socle commun qui permet aujourd'hui l'application, la réalisation d'un bilan psychologique dans ces examens obligatoires, je crois satisfaisant, en tout cas pour un début. Et surtout, cette commission a fait naître en nous la volonté de continuer à travailler ensemble, d'échanger, malgré ou grâce justement à nos contradictions, parce que c'est un enrichissement. On s'est revus et on a décidé donc d'organiser ces journées qui, j'espère, seront annuelles. Alors, ces journées, elles sont modestes. La modestie n'empêche pas la qualité. La modestie permet surtout la convivialité et l'échange. Encore une fois, nous sommes d'horizons très divers. Il y a des médecins, il y a des psychologues, il y a des sociologues, il y a des sportifs, normalement. Il y a d'autres courants de pensée, d'autres formations, et c'était vraiment un des objectifs de ces journées. Nous sommes certainement d'accord sur certains points. J'espère que nous sommes en désaccord sur bien des points, et j'espère qu'on va échanger. Je suis pour qu'il y ait une opposition forte. Et je vais appeler, pour certains ils sont déjà là, la première séance plénière, le docteur Prétagu de Nantes, Madame Serretta de Montpellier, le docteur Pérou, également, que j'ai vu, qui a dû régler ses problèmes de vidéo. J'ai l'honneur et la chance d'appeler le président de cette séance, l'excellentissime professeur Bouvard, l'irremplaçable, et accompagné de Monsieur Mathieu Delabarre, qui n'est pas sur le programme, mais qui a pu se déployer une énergie incroyable pour venir nous rejoindre. Mathieu, je vous invite à venir et à prendre ma place. Messieurs, dames, très belle journée de psychopathologie du sport.
Bien, il m'appartient donc d'ouvrir cette première séance plénière. Alors je le fais avec à la fois le plaisir, je dirais un double plaisir, celui de de l'amitié, parce qu'avec Serge, on ne se voit pas beaucoup, ni avec Sabine Affelou et Eric Mangon, mais nous retrouver, c'est toujours un moment agréable. Je le fais aussi avec l'autre plaisir qui est de l'originalité de cette session, l'originalité de cette journée, qui, encore une fois, aborde pour la première fois des questions qui sont des questions que nous voyons, nous, en santé publique, dans nos consultations ou dans nos unités d'hospitalisation, et qui posent un certain nombre de problèmes dont on va discuter sans doute Le côté pilier de Serge Chimon aime bien qu'il y ait de la réponse en face, donc il faudra aussi qu'il y ait contradiction dans ce domaine-là. C'est un problème, je le disais, et la première session sera consacrée aux troubles des conduites alimentaires, à l'image du corps et donc à la question des pratiques sportives, sûrement tournant autour de ces questions-là. C'est une question qu'on voit, je vous le disais, régulièrement dans l'unité du SUHEA que nous avons au centre Jean Abadie. On est confronté très régulièrement chez les jeunes anorexiques à ce problème de, pratiques sportives, d'activité physique, mais parfois de performance sportive associée à ces questions de réduction de l'alimentation et de troubles de l'image du corps. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous interpelle très, très fort. Serge est parti, mais je voulais lui dire aussi qu'il y a des liens entre, je pense qu'on en reparlera au cours de ces journées, entre addiction et pratique sportive. Moi qui suis un grand tabagique, je peux lui dire aussi qu'il y a des addictions sans pratique sportive. Donc faut, pour que les choses soient bien claires. Alors la position des modérateurs, avec M. Delabarque et moi-même, est toujours difficile. Nous allons donc avoir une position d'arbitrage. Bien entendu, l'arbitrage, c'est aussi le timing. Donc j'invite nos orateurs à le respecter. Nous avons convenu du principe d'intervention de 20-25 minutes. Mais je crois que l'idée de la discussion me paraît très importante. Donc de laisser ce temps de la discussion. Je demanderai à Serge, éventuellement, dans le cas de conflit, de pouvoir recourir à la vidéo. De pouvoir recourir à la vidéo. Hein, voilà. Si jamais nous avions des soucis de conflit. Et puis peut-être, Mathieu Labarque, vous dire un mot. Pas forcément. Puisque nous avons la chance de la pluridisciplinarité et d'être un psychiatre et un sociologue pour...
Oui, bonjour. Donc effectivement, moi je suis sociologue, je ne suis pas spécialisé dans le sport, mais je m'intéresse aux questions qui portent sur l'alimentation au rapport au corps. Je travaille à l'ISPED à Bordeaux, voilà, et je pense que cette séance va être particulièrement intéressante et risque de susciter énormément de questions. Alimentation, rapport au corps, sport, voilà des thèmes... particulièrement intéressant. Je pense qu'on va commencer.
Bonjour, je suis très honoré d'ouvrir cette première journée de psychopathologie du sport, thématique chère à beaucoup d'entre nous, hein, comme le rappelait Serge, et sur laquelle, je ne sais pas s'il y a 10 ans, il y a eu une petite fée qui s'est penchée sur le berceau du sport, mais il est vrai que plusieurs équipes ont commencer à travailler sur ces questions. Et ça fait à peu près une dizaine d'années que je travaille dans le service de médecine du sport de Nantes et que j'essaye de développer avec pas mal de difficultés, ma foi. On pourra peut-être y revenir si ça vous intéresse. Une consultation destinée aux sportifs particulièrement. Donc je suis psychiatre également et je travaille dans le service d'addictologie de Jean-Luc Vénis. Alors pour aujourd'hui, on m'a demandé d'aborder les aspects cliniques des TCA dans le sport. Donc je vais essayer de vous apporter quelques notions. On ne pourra évidemment que survoler cette question. Mais je sais que c'est une question importante parce qu'on la rencontre très régulièrement en consultation. J'essaierai de vous passer un cas clinique vidéo. J'ai pas l'habitude de parler à la télévision. Et donc j'aime autant laisser parler ceux qui en ont un peu plus l'habitude. Et notamment certains sportifs qui sont plus rompus à ce type d'exercice que moi-même. Donc je vais essayer d'organiser, avant de vous parler, enfin de vous montrer ce cas clinique vidéo, qui suscitera sans doute des questionnements, de parler d'une façon un peu plus générale des troubles du comportement alimentaire, quelques notions, quelques définitions, parce qu'effectivement tout le monde n'a pas forcément de notion que ces troubles peuvent se développer de façon aigu dans le sport, mais j'ai envie de dire, et d'emblée j'ai envie de le dire, pas forcément pendant la pratique sportive. J'y reviendrai sans doute, mais c'est vrai que c'est souvent en dehors de cette pratique sportive, c'est-à-dire quand elle s'arrête, quelle qu'en soit la raison. Parfois, simplement à la fin de la carrière sportive, parfois c'est l'origine de la fin de l'exercice sportif, parce que les troubles alimentaires prennent le dessus. Parfois c'est lors de blessures, d'autres fois on a des consultations qui nous sont demandées dans les périodes hivernales, dans les périodes de repos, notamment dans les sports à catégorie de poids. Et donc il me semble important d'aborder cette question, certes pendant la pratique sportive, mais également et surtout, j'allais dire, être attentif à ce qui se passe en dehors de cette pratique sportive ou à la frontière de cette pratique sportive. Je vous parlerai également de cette consultation qu'on a mis en place à Nantes pour voir quelle place comprenne les troubles alimentaires dans cette consultation, mais aussi les autres troubles psychologiques. Parce que Serge évoquait la question du bilan psychologique ou de l'évaluation psychologique, et il est vrai que je pense que c'est un outil très intéressant à développer, et notamment en termes de prévention. Donc on verra à travers notre pratique, j'essaierai de vous apporter donc ce point de vue de notre activité. Alors, mon titre, je m'en rends compte, hein, les troubles du comportement alimentaire chez le sportif, j'aurais presque dû dire chez la sportive, parce que comme dans la population générale, évidemment, ce sont essentiellement les femmes qui présentent ce type de difficultés. Un rapport de 9 pour 1 en général, hein, c'est ce qui est retenu, que ce soit dans le sport ou en dehors du sport. Parce qu'il est vrai aussi que dans le sport, les hommes ne sont pas exempts de ce type de troubles de comportement. Alors je voulais commencer par les quelques données de la littérature, qui sont assez nombreuses, mais finalement pas très nombreuses, parce qu'elles sont parfois contradictoires aussi, et surtout elles utilisent des critères variables, pour mener ces études, soit parce qu'elles s'intéressent seulement à un sport, soit parce que certains âges sont focalisés, soit parce que les définitions des troubles des comportements alimentaires sont disparates et ne sont pas suffisamment rigoureuses pour qu'on puisse en tirer des conclusions suffisamment intéressantes. C'est ainsi que on peut avoir, je vais vous le montrer dans quelques éléments de biblio que j'ai ressortis, des résultats qui peuvent sembler contradictoires, voire aberrants parfois. Donc on note d'une manière générale une prévalence quand même de ces troubles des comportements alimentaires, en général subcliniques. Je reviendrai peut-être sur les définitions tout à l'heure, même si ce n'est pas ce qui est le plus intéressant dans nos échanges. Subclinique, ça veut dire qu'ils ne remplissent pas tous les items, on va dire, d'une définition classique d'un trouble alimentaire. Et comme vous le voyez, c'est assez disparate, puisqu'entre 15 et 65% présenteraient des troubles du comportement alimentaire. Alors évidemment, si 65% des sportifs aient des troubles alimentaires, il n'y en a plus beaucoup qui feraient du sport. Mais bon, c'est ainsi, hein, les études sont ainsi faites, avec leurs limites, et vous verrez quand je vous parlerai de ma petite étude, ma modeste étude, pour reprendre le terme de Serge, que personne n'est parfait. Donc, et 5 à 15% chez les garçons, je crois, dans la population générale, c'est quelque chose de l'ordre de 0,5%, donc c'est pareil, c'est disproportionné par rapport aux études. Une étude norvégienne, Sundgut Borgen, montre qu'il y a à peu près 20% d'anorexie chez les sportives norvégiennes. Il a fait une étude sur les équipes juniors, les équipes seniors, et il montre qu'il y aurait donc à peu près deux fois plus de problèmes d'anorexie chez la sportive norvégienne, et 8% chez les hommes, comme je vous disais, par rapport à 0,5, cette fois-ci, le ratio est assez important. Smolak, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard sur cette analyse, puisque c'est une méta-analyse qui a essayé de réunir différentes études, confirme d'une certaine façon que les troubles alimentaires sont plus fréquents chez les sportifs que chez les non-sportifs. C'est montré scientifiquement, mais cette différence est relativement faible, en tout cas moins importante que ce qu'on voyait dans l'étude précédente. Et il pointait notamment certains groupes à risque, comme les danseuses, et certains types de pratiques, comme le niveau de la pratique. Augesta, lui, ne fait pas de corrélation entre désordre alimentaire et niveau de pratique, ni le temps de pratique sportive. Alors, il y a d'autres études qui s'intéressent au risque de développer des troubles alimentaires, parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, si on n'arrive pas à les voir pendant la pratique sportive, on va essayer de voir quels sont peut-être les facteurs de vulnérabilité ou essayer de voir si les populations sportives présentent effectivement un risque plus élevé que dans la population générale, de par leur pratique, de développer ce type de troubles. Davidson, en 2002, enfin récemment finalement c'est 5 ans déjà, un mandat présidentiel, disait que les jeunes pratiquantes. Enfin, donc il a comparé deux groupes de pratiquants, de jeunes, de très jeunes. Hein, je crois que c'est des études sur des moins de 8 ans. Hein, mais donc pour voir ce qui va se passer après, on essaye de voir ce qui se passe avant. Donc comparer un peu des groupes de sport esthétique ou à haute valeur ajoutée esthétique, comme la danse, la GRS, la gymnastique, natation, aérobique ou roller skate, et d'autres sports qui sont sans valeur ajoutée esthétique, en tout cas a priori, comme volleyball, football, baseball ou d'autres sports que j'ai notés ici, tennis, arts martiaux, etc. Et donc, il notait que les pratiquantes dans ces sports à haute valeur ajoutée esthétique étaient plus préoccupés par leur poids que les autres, et donc auraient plus de risques de développer des TCA. Il reprend également la notion chez les danseuses et de la pratique à haut niveau. Donc on se dit quand même que les études montrent qu'il y a certains sports qui seraient plus à risque et certains types de pratiques qui seraient plus à risque. Vous avez tous sans doute entendu parler des études de Marie Choquet qui disent qu'une adolescente sur 5 ferait du sport pour maigrir, et qu'il y a une courbe en U qui relie finalement la préoccupation alimentaire et l'intensité de pratique et les normes qu'elle a prises pour ses études, pour la plupart de ses études, sont 8 heures par semaine. Et c'est vrai que quand on travaille avec des sportifs de haut niveau, 8 heures par semaine, certains, ça les fait rigoler. Notamment les gymnastes qui, parfois très jeunes, peuvent pratiquer plus de 20 heures par semaine avant 10 ans. Et c'est vrai que c'est très, très, très intéressant. Ça m'interroge beaucoup. Et Stock, dans une autre étude où il compare des coureuses de fond, par rapport à la population générale, montre qu'un quart d'entre elles présenterait des risques de développer des troubles alimentaires et des addictions sportives, et je pense qu'on y reviendra peut-être cet après-midi sur ces notions d'addiction à l'exercice physique, alors que leur indice de masse corporelle est normal, ou en tout cas pas affecté de façon significative. Ce qui tendrait à dire, parce que en général, en médecine, on a la triade symptomatique hein, de l'anorexie, avec cet amaigrissement important, je vous reparlerai peut-être des définitions tout à l'heure, que la question du repérage n'est pas si évident que ça, n'est pas si simple que ça, notamment chez les sportifs qui peuvent développer des stratégies de contrôle de poids. Et on le verra peut-être aussi dans le cas clinique que je vous montrerai tout à l'heure. Donc je reviens sur cette méta-analyse de Smolak, hein, donc qui, comme je disais tout à l'heure, notait que les troubles alimentaires étaient plus fréquents chez les sportifs que les non-sportives. En revanche, ce qui est assez contradictoire, voire étonnant, cette étude montre qu'il n'y aurait pas plus de troubles alimentaires dans certains sports, ceux que d'autres études dont je vous parlais à l'instant montraient du doigt. Donc comment s'y retrouver là-dedans, et notamment les gymnastes, les nageuses, les fondistes, les coureuses de fond. On pourrait se poser la question à savoir si certains sports, finalement, auraient un effet protecteur vis-à-vis des TCA. Et c'est vrai qu'on entend ça assez souvent, que faites du sport, et c'est cette représentation assez commune, que le sport est bon pour la santé, voire protecteur pour la santé, pour éviter de développer des problématiques, et particulièrement des problématiques de dépendance. Je pense que ça nous laisse réfléchir, en effet. Très fréquemment, ceux qui ont l'habitude de rencontrer les marathoniennes ou les athlètes se rendent compte que elles ont des stratégies effectivement qui ressemblent très fortes à des TCA sans forcément un amaigrissement, des stratégies de contrôle, voire d'hyper-contrôle. J'ai souvenir de quelques patientes que je voyais et qui avaient un poids qui ne variait pas plus de 200 grammes, je n'allais pas dire en deux mois, mais sur plusieurs années, et que dès que ça dépassait ces barres, évidemment une stratégie soit boulimique pour reprendre, soit purgative ou restrictive ou hyperactive, puisque ça s'intègre dans cette pratique, se mettait en place pour revenir à ce poids idéal. Donc y a-t-il un intérêt finalement à diagnostiquer ces troubles alimentaires chez les sportifs? C'est vrai qu'on peut se poser cette question. Finalement, on peut se satisfaire de cette notion que ben il n'y en a pas tant que ça. Les études nous disent tout et leur contraire, et on pourrait se poser cette question. Évidemment, c'est important, car même peu symptomatiques, et sans doute ce sont les plus compliqués à repérer en pratique courante, parce que le médecin aussi, je crois que c'est important de le souligner, est parfois ébloui par les performances de ses patients ou de ses sportifs, et parfois ne va pas aller chercher ce qui pourrait se cacher derrière cette apparente hyper-normalité ou hyper-adaptation au milieu et hyper-performant. Donc même peu symptomatique, il signe finalement cette désadaptation avec un risque d'aller progressivement vers une évolution addictive. Alors, comment repérer les différentes formes de troubles alimentaires ? Alors, je sais que certains psychologues ne sont pas attachés à ces critérologies, et moi non plus, pas forcément, mais bon, ça nous donne quand même des repères. On voit bien que si on avait des repères, on pourrait peut-être savoir exactement de quoi on parle aujourd'hui. Donc on pourrait s'en remettre aux critères de la CIM-10 ou du DSM-4, qui montrent donc une perte de poids avec un BMI inférieur à 17,5, perte de poids provoquée avec restriction, donc ce sont les anorexies restrictives pures, éviction alimentaire, vomissement, usage de laxatifs, hyperactivité sportive, perturbation de l'image du corps, peur de grossir, souvent aussi déni, et c'est toute la question psychique là, qui est en cause, déni de ces troubles, mais aussi des conséquences des troubles. C'est-à-dire qu'elle s'engage dans un processus pathologique qui est, alors pour les anorexiques, on va dire non sportives, ou celles qui ont une restriction importante, on va s'inquiéter, parce que ça peut aller jusqu'à une problématique vitale, mais là, on ne va pas s'inquiéter. Alors après, d'autres définitions, anorexie mentale atypique, peut-être que c'est là-dedans d'ailleurs qu'on va pouvoir définir des critères plus spécifiques des sportifs. Évidemment, les questions de boulimie, où l'hyperphagie sert finalement à neutraliser la perte de poids dans un sens ou dans l'autre finalement. Certaines boulimies sont atypiques, des hyperphagies boulimiques ou des anorexies boulimies, enfin bref, on peut manier ces concepts un peu dans tous les sens. Alors, est-ce qu'on doit utiliser finalement un critère plus récent qui a justement été mis en évidence et qui correspondrait peut-être plus aux sportives, l'anorexia athletica comme on dit, qui est un tableau finalement subclinique de l'anorexie mentale où finalement il n'y a pas de perte de poids, donc on se rend bien compte que la perte de poids c'est pas le critère essentiel. Et il n'y aurait pas de perturbation ou une perturbation limitée de l'image du corps. Alors c'est vrai qu'on n'est pas dans les dysmorphophobies classiques qui peuvent aller assez loin quand on s'occupe notamment des patientes anorexiques. Ne doit-on pas finalement plutôt penser cette question en s'attachant, comme je le disais en introduction, à repérer ces facteurs de vulnérabilité qui sont susceptibles de développer une addiction ? Et quand je dis une addiction, je n'ai pas envie de dire un TCA en particulier, parce que les frontières entre TCA et notamment addiction à l'exercice physique sont assez ténues et je pense qu'elles ne sont pas forcément toujours opérantes. Du fait notamment d'une éthiopathogénie parfois commune entre ces différents troubles. Donc s'intéresser pourquoi pas non plus à la genèse de l'addiction qui est la rencontre d'un individu. Et là, on va s'intéresser aux facteurs de vulnérabilité individuels qui sont décrits classiquement comme biopsycho-comportementaux. Dans un environnement donné, et donc là, c'est dans le sport, la société sportive et tous les liens qui existent entre le sport et son entourage. Et à un moment donné, un moment très particulier qui est l'adolescence, et je crois que ça, c'est une notion qui porte beaucoup notre attention, sur les impasses éventuellement de cette adolescence chez les sportifs. Parce qu'on a l'impression en clinique que c'est à ce moment-là que viennent apparaître ces facteurs de vulnérabilité, qui ne sont pas forcément visibles, mais qui pourraient, et notamment à l'arrêt du sport, quelle qu'en soit la raison, évoluer vers des tableaux pathologiques, cette fois-ci beaucoup plus préoccupants. Et je vous renvoie notamment, même si elle est également imparfaite, finalement les sciences sont peu exactes, à l'étude qui avait été faite par Loewenstein notamment sur les antécédents des patients qui étaient pris en charge dans les services de toxicologie ou d'alcoolologie et qui montrait qu'environ, je crois, de mémoire, 10% de ces patients avaient eu une pratique sportive intensive à un niveau au moins national. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir aussi cette vision au-delà de la sphère sportive pour apprécier les difficultés que peuvent rencontrer ces sportifs. Donc, dans le service de médecine du sport, là, je vous montre une étude qui concerne 100 suivis consécutifs, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un nouveau sportif, à partir d'un tenté jusqu'au centième, on les a pris les uns après les autres. Seuls les sportifs qui présentaient des troubles, des difficultés psychologiques manifestes, c'est-à-dire repérées par le médecin du service, nous étaient adressés. L'âge des consultants, finalement, la moyenne est à 17 ans et demi, donc c'est une population jeune. Le niveau des pratiquants, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, est assez élevé, hein, puisqu'il n'y a que 16% qui pratiquaient le sport loisir. Tous les autres étaient inscrits, notamment chez les jeunes, puisqu'ils ne pratiquent souvent qu'à un niveau régional, mais étaient inscrits dans un sport à un niveau au moins régional. L'intensité de la pratique sportive pour 77% était supérieure à 8 heures par semaine, pour essayer de reprendre les critères d'autres études. Et donc, j'ai analysé un petit peu les motifs de consultation, la demande initiale telle que le sportif nous l'annonce en arrivant dans notre bureau. Donc, 5% d'état dépressif, 9% de troubles du comportement. Alors, ce n'est pas le sportif qui le dit, en général, j'avais un petit mot, hein, pour me dire tout ça. Troubles du comportement alimentaire, 11%, donc on voit que finalement c'est pas mal repéré par les médecins. Troubles somatiques inexpliqués, alors bon, il y a toute une myriade de troubles, hein, somatiques, fonctionnels, qui viennent enrayer aussi la pratique sportive, et la pile majorité, pour stress invalidant. Alors une fois passé à la moulinette de l'évaluation, du psy, on va dire, parce que c'est comme ça qu'il nous appelle, hein, il ne faut pas qu'on dise qu'on est psychiatre, ça fait peur. On se rend compte que les 5% de dépression, en fait, il y en avait 7, c'est pas mal, hein, c'est une bonne appréciation par les médecins, finalement. Qu'il y avait quand même les 50% de problèmes d'anxiété, on pourrait voir sur ce tableau, là, le petit encart à 19%, qui finalement présente une anxiété de performance pas très inquiétante, que 10% présentent des troubles névrotiques un peu plus caractérisés, notamment névrose d'échec, 18% ont des troubles du comportement alimentaire, en général subcliniques, 14% ont une addiction à l'exercice physique, et 32%, je les ai mis nulle part, en fait un tiers, parce que je ne voulais pas préjuger de leur évolution. Et je me suis aussi intéressé à savoir si les sportifs repéraient finalement leurs difficultés, et finalement ils viennent pas souvent d'eux-mêmes, ils sont souvent poussés, ils sont demandeurs une fois que le médecin du sport les a poussés, et même dans la grande majorité, 75% des cas, ils sont pas demandeurs, même quand on les a poussés à traverser notre porte. En revanche, une fois que la première consultation est passée, qu'on a désacralisé cet instant, on se rend compte que 60% reviennent au moins à une deuxième consultation, ils sont demandeurs de cet espace propre, un espace psychique propre, qui leur permet, et qui est original dans ce monde du sport, qui leur permet d'évoluer, de pouvoir avoir un espace qui leur appartient, et où ils ne sont pas jugés, où ils ne sont pas dans une attente de performance ou autre, et que 25% ont été orientés ailleurs. Donc j'ai une vidéo, je ne vais pas m'en remettre à votre suffrage pour savoir si vous voulez la voir, mais comme j'ai tellement appâté, mais qu'on ne m'a donné que 2 minutes pour la passer, et qu'elle en fait 10, je ne sais pas si je vous la passe. Monsieur le Président.
On souhaitait un petit peu faire connaissance avec vous, afin que vous nous parliez de votre parcours, que ce soit peut-être autour du sport tout d'abord, puisque vous êtes sportive.
Bon, en fait, j'ai commencé la planche à voile assez jeune. J'avais 7-8 ans comme ça, et j'ai commencé la compétition à 11 ans. Et de 11 ans à 24 ans, ça a été très présent dans ma vie. Et on va dire jusqu'à 20 ans, j'avais des bonnes performances. Et c'est depuis que j'ai des problèmes de boulimie, donc vers 20-21 ans, que ça faisait yo-yo comme le poids au niveau des performances. Mais j'étais très occupée par la planche à voile, en fait. De 10 ans à 20 ans.
D'accord. Ouais. D'accord. Donc vous pratiquiez de manière intensive, régulière et en compétition.
Ouais, en compétition, ouais. C'était très... c'est pas comme les gymnastes de Chine. Enfin, on est moins pris quand même, mais on est beaucoup pris. En plus, il y a l'école. Enfin, comme je disais, je me suis rendu compte ici que J'ai passé de 10 à 20 ans. J'ai fait de la compétition de planche à voile à haut niveau, donc championnat d'Europe, championnat du monde, des compétitions internationales de temps à autre. En plus de ça, je faisais du piano. Je prenais des cours de piano, j'étais à l'école de musique des Sables. J'avais l'école, donc il y avait tout ça.
C'est sciences par études
Jusqu'en terminale, non. Et comme j'ai loupé mon bac la première fois, j'ai repassé mon bac scientifique à La Rochelle en sport études. Donc en deuxième fois, donc je l'ai eu. Donc j'avais tout ça et je me suis rendu compte ici que j'étais boulimique, pas de nourriture là, mais de plein de choses quoi. Je faisais plein de choses quoi. Donc j'avais pas le temps de penser à manger. Et puis à 20 ans, tout s'est écroulé. Enfin, moi j'ai trouvé, j'avais plus de. Je sais pas pourquoi, enfin. Vas-y, je sais pourquoi, j'ai aussi des déceptions sentimentales. Vers 20-21 ans, ma confiance en moi elle a baissé. Et puis, je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie. Donc tout ça s'écroulait et puis petit à petit je faisais plus rien et je me suis réfugiée dans la nourriture en fait.
D'accord, à ce moment-là, c'est-à-dire que les problèmes alimentaires se sont greffés au moment où au niveau du sport ça devenait un peu plus compliqué.
Ouais, ouais.
Avant 21 ans, puisque vous nous parlez là de cet âge-là, un petit peu comme un moment de fracture, auparavant, pendant votre carrière sportive, est-ce que ces questions d'alimentation ou des questions peut-être aussi qui tiennent à votre corps, il y a des questions qui étaient présentes, peut-être plus à certains moments qu'à d'autres?
Oui, quand on est sportif, on fait attention à son alimentation, donc c'était présent, mais pas autant que maintenant, quoi, parce que je sais que j'ai une première compétition où je suis partie en avion toute seule et je me souviens que c'était là à 15 ans, donc c'était l'âge où j'avais 15 ans et donc j'étais séparée de mes parents, c'était la première fois et quand je suis revenue j'avais pris bien au moins 5 kilos quoi, et au moins 5 kilos, donc là c'était la première fois où j'avais pris du poids, où mon alimentation avait changé quoi.
D'accord.
Et puis après c'est comme je pense pas mal d'adolescentes, à partir de 15 ans j'ai dû faire je suis sûre j'ai fait des régimes idiots qui ont fait que mon métabolisme a changé, il avait pris l'habitude des régimes stupides. Et puis,
c'est des régimes liés justement au sport ou plus à... Et d'autres adolescentes là, ouais. Qui ont ce souci d'esthétique plutôt.
Aux deux, ouais.
Ouais. Ça veut dire que les deux intervenaient dans votre, votre choix de faire ces régimes.
Ouais. C'était plus, je pense, pour le sport aussi, mais c'était pareil pour les deux. Comme je le faisais pour l'un, comme ça, c'était.
D'accord, donc d'un côté pour la performance, et de l'autre aussi pour vous.
Ouais.
D'accord.
Puis ça, jusqu'à 20 ans, enfin. C'était des petits surpoids quoi.
D'accord.
Ça n'a jamais excédé 5 kilos.
D'accord.
Alors que moi, à partir de 20-21 ans, là j'ai. Le plus gros surpoids, ça a été prise de 20-25 kilos. Ces derniers mois, ça a été les plus grosses crises.
Est-ce qu'on pourrait dire, à travers ce que vous évoquez, que le sport était un facteur stabilisant pour vous par rapport à ces questions? Comment vous voyez ça?
Je m'occupais quoi. Donc je comprends la question comme ça. Donc je m'occupais donc et puis je fais du sport donc je perds du poids. Mon organisme bouge.
Vous dites je m'occupais,
je le vois comme ça maintenant quoi, je m'occupais quoi, je je faisais du sport. Hein.
Est-ce qu'on peut revenir un peu, puisque vous avez parlé de vos parents là, à l'instant, et de la relation notamment avec vos parents et peut-être la façon dont vous percevez cette relation à travers votre, votre évolution. Vous disiez tout à l'heure notamment que vers l'âge de 15 ans, lors de votre premier voyage, c'est la première expérience de séparation. Donc je voudrais voir un petit peu votre...
Ben, mes parents, ils sont très présents. C'est une relation très forte. Avec mon père, c'est des fois même très violent, parce que, enfin, très violent. Il est, parce qu'il est triste de me voir... de me voir comme ça, donc il sait plus quoi faire. Et donc ça a été très violent des fois, mais comment dire, enfin... Puis là j'ai du mal à me détacher. Donc ils vont être présents, mais il va falloir que petit à petit je sache me prendre en main, parce que j'ai quand même 24 ans. Et il faudrait peut-être que j'y pense.
4 ans, le sport a été mis un peu entre parenthèses.
Bah pas tant que ça, parce que comme j'ai la région, les départements qui m'aident, ben à chaque fois j'essaie de faire le maximum pour revenir. À chaque fois, tous les ans, j'ai fait mon maximum pour revenir à niveau. Et à chaque fois, je remettais au niveau du poids aussi. Donc j'ai fait des cris jusqu'à 85 kilos. Et j'ai réussi à revenir à 63 kilos. Donc ça a été dur, mais tous les ans, à chaque fois, comme j'avais des partenaires institutionnels, bah, je voulais pas les décevoir, donc tous les ans. Et donc,
aux compétitions dans lesquelles vous étiez engagé.
Mais au niveau national, ça a toujours très bien marché. Au niveau européen, 2001-2002, ça a été. Puis 2003-2004, ça a commencé à chuter. Puis là, 2004, juin 2004, j'ai arrêté les compétitions. Puis maintenant, je me dis qu'il faut que je me guérisse. Et puis on verra ça plus tard.
D'accord.
J'ai pas l'intention d'arrêter, hein, mais de mettre entre parenthèses.
En tout cas, plus dans le même mode, pas peut-être plus dans la compétition, des choses de cet ordre-là, c'est ça que vous voulez dire.
Si. Mais vraiment pour l'instant me guérir et puis passer mon brevet d'état voile parce que j'ai plus que le spécifique à passer, donc comme ça au moins comme je disais par rapport à mes parents, je serai
c'est une question un petit peu aiguë là, hein, le fait de pouvoir vous trouver votre place.
J'essaye d'être indépendante, mais ce qui m'est dur, c'est le poids. Et c'est toujours pareil, quoi. Je sais que ça va être long de perdre du poids, parce que j'en fais 73 et j'en ai encore une quinzaine à perdre. Et je sais que ça va être long et que mon indépendance, en fait... j'ai envie de mon brevet d'état, j'ai pas envie de le passer à ce poids là quoi. J'ai envie d'avoir perdu du poids. Je me sens bien dans ma peau quand je fais 10 kilos de moins quoi, déjà, et je me sens bien, je me sens à l'aise avec les gens aussi pareil.
Je veux dire que votre ressenti corporel est lié aussi à votre psychisme d'une certaine façon.
Voilà, ouais, complètement.
Pour passer la parole à l'intervenante suivante, qui est Madame Serretta, donc qui est psychologue et qui va nous parler du féminin sous surveillance.
Oui, donc alors nous assistons aujourd'hui à un phénomène de quasi-sacralisation du sport. Il occupe une place enviée et les sportifs professionnels sont de plus en plus médiatisés et adulés. Donc nous sommes tous d'accord pour reconnaître que l'activité physique est un facteur de santé. Mais c'est à travers une pratique modérée et adaptée qu'il convient de lui conserver une connotation positive. Donc le surinvestissement sportif, l'obsession de l'exercice, de la dépense, jusqu'à la banalisation de la douleur physique, nous oriente clairement vers les conduites de dépendance, et ces aspects sont rejetés et ne sont pas traités par la collectivité. alors que nous pouvons dire que nous avons affaire à une nouvelle forme de maltraitance, l'entraînement intensif précoce. Ces dérives sont d'autant plus inquiétantes lorsqu'elles concernent des sports pratiqués par des enfants ou des jeunes adolescents, comme la gymnastique rythmique et sportive, par exemple, spécialité à maturité précoce, qui présente comme caractéristique de ne concerner qu'une population adolescente. Ici, les méthodes d'apprentissage sont particulièrement contraignantes, basées sur la répétition inlassable des mêmes enchaînements, alliées à des charges de travail considérables, des restrictions alimentaires draconiennes et rythmées par un discours de l'entraîneur imposant une totale obéissance. Donc le sport met en valeur la virilité, la maîtrise corporelle via le travail du musculaire, venant se substituer au débordement des émotions, considérées comme une fragilité visible et à dominante féminine. Cependant, même dans des sports à finalité artistique, apparaissant comme une activité servant mieux la féminité, on constate une très grande difficulté d'affirmation du féminin. Donc en GRS, l'esthétique féminine est portée par une population juvénile qui doit séduire et offre ses performances au regard de juges qui ont tout pouvoir. Ces fillettes prennent des poses féminines avantageuses entre deux lignes d'acrobatie. Ces adolescentes sont filiformes et leur maigreur laisse à penser qu'il s'agit plutôt d'enfants souffrant en période prépubère. Ces silhouettes si particulières, censées magnifier la féminité, ne sont pas sans évoquer le renoncement à la chair de l'anorexique. Et effectivement, nous constatons l'extrême fréquence des troubles des conduites alimentaires chez les jeunes filles gymnastes, car pour réussir en gymnastique, il faut être le plus maigre possible. Donc nous suggérons que le milieu gymnique participe pleinement à l'installation d'une addiction à la recherche de la minceur. En effet, toute activité sportive de haute compétition s'inscrit dans un cadre institutionnel hyper structuré et hiérarchisé qui impose de multiples contraintes. Le pratiquant se trouve dans un lien de subordination souvent aliénant. Le sujet baigne dans un environnement clos, voué au culte de la performance et à l'effraction des limites naturelles du fonctionnement corporel. Se maintenir dans ce contexte nécessite la mise en place de stratégies défensives de surinvestissement, de dépendance-soumission propices au débordement addictif. Ainsi, le noyau environnemental gymnique, avec sa discipline, représente une structure particulièrement autoritaire et susceptible d'engendrer des mécanismes de défense compulsifs. De ce fait, il ne faut pas entendre la problématique des troubles du comportement alimentaire en gymnastique féminine comme la seule manifestation d'une organisation de personnalité pathologique, mais prendre en compte la contextualité dans laquelle évolue le sujet, avec notamment le pouvoir d'emprise de l'institution, la rythmicité des entraînements. Il faut donc prendre cette problématique anorexique dans le sens d'un processus psychique prenant valeur de symptômes significatifs pour l'ensemble institutionnel. L'entourage du sujet sportif est également à prendre en compte. En effet, lorsque l'anamnèse du sujet fait ressortir un investissement quasi fanatique au sein du noyau familial pour tout ce qui se rattache à l'excellence sportive, lorsque la considération de l'enfance s'apparente au traitement d'un objet de complétude narcissique, lorsque des adultes en viennent à dénier les recommandations de santé pour l'épanouissement de l'enfant, nous pouvons faire l'hypothèse d'un asservissement psychique issu d'un moi sous l'emprise d'un idéal de réussite sportive grandiose. Dans ces cas-là, les parents instrumentalisent le corps de leur enfant, projettent leur désir de reconnaissance et assouvissent la pulsion d'emprise. Ils sont dans l'incapacité de pouvoir accueillir l'émergence d'un sujet désirant chez l'adolescent. Il est en effet bien rare de sentir un environnement suffisamment bon qui allierait à la fois sécurité affective et liberté d'expression du désir. La présence de surveillance physique et psychique continuelle des parents pousse l'adolescent à ressentir une obligation constante à l'excellence. La satisfaction et la volonté de contrôle parentaux l'emportent sur toute autre forme de reconnaissance. Il est ici question d'adolescentes aliénées au désir parental et non de soumission librement consentie. Nous pouvons également entendre dans le désir des parents de voir leur fille s'entraîner plus, une attitude de défense engendrée par la peur de la poussée libidinale propre à la période adolescente. Les parents, et tout particulièrement le père, tente de retarder le plus possible le moment des premiers émois amoureux, signe de l'abandon de la sexualité infantile et annonciateur de l'apparition d'une femme. Il voit en l'hyperactivité sportive l'assurance d'une occupation non sexuelle. Il n'est pas rare d'entendre de la part des pères, au moins pendant qu'elle s'entraîne, elle ne pense pas au garçon, on sait où elle est. Le cadre est rigide, paralysé par l'émergence du féminin. La figure paternelle en impose par son intransigeance, son autoritarisme. Il voit dans les transformations pubertaires la perte d'un enfant. Et pour ses pères, cette perte n'est pas acceptable, car il est nécessaire de ne pas perdre l'objet idéalisé. La participation aux compétitions est la continuité d'une défense protectrice contre le complexe de castration. Le père reconnaît sa fille comme phallique et peut ainsi surpasser sa peur du féminin. Donc cette emprise de l'environnement affectif et du noyau environnemental gymnique, articulée autour du refus du féminin et des désirs parentaux, place l'enfant comme objet de complétude permettant la restauration narcissique. Dans ce contexte, les conduites anorexiques viennent signer le refus du féminin érotique. Refus commun chez la mère et la fille, car l'on peut considérer que le surinvestissement sportif correspond au surinvestissement du maternel chez la mère. Et ce rejet violent du corps sexué est symptomatique des sports typiquement féminins. La dimension du rapport au corps en train de changer est évacuée, ainsi que la fonction désirante liée au changement d'investissement objectal. De plus, l'adolescente est immergée dans un milieu clos, ne côtoyant que des doubles d'elle-même. Elle ne réalise donc pas l'expérience de la rencontre concrète de l'altérité. Il est en effet difficile de franchir le pas vers l'inconnu d'un changement d'objet d'amour lorsque l'on a fait l'expérience d'un seul et unique type d'investissement objectal pour se sentir exister aux yeux des autres. Dans ces troubles anorexiques, induits en partie par les restrictions alimentaires imposées, le lien objectal avec la nourriture n'est pas en termes d'évitement absolu, mais en tant qu'anorexie avec recours au vomissement non systématique. Ici, seuls certains aliments sont considérés comme de mauvais objets. L'absorption de nourriture est donc codée, ritualisée, et le vomissement n'apparaît qu'en cas de perte de contrôle pour conforter la toute-puissance. La sphère orale rassemble en fait tous les conflits intrapsychiques, toutes les tensions, et le vomissement apparaît comme un joker, un rituel contre le risque de l'imprévisible. La nourriture apparaît comme un petit objet qu'il faut détruire. De plus, l'hyperactivité planifiée apparaît comme une parade substitutive au manque. Les sujets sont dépendants à leur corps compétitif, filiforme, sexuellement neutre, mis à distance par le surinvestissement moteur et la répétition mécanique. Ce mode de fonctionnement addictif signe l'évitement d'une confrontation avec la perte, ainsi qu'une fixation au désir de reconnaissance par le père. Ces adolescentes apprennent à ne pas s'écouter, à contrôler leurs émotions, à s'habituer aux brimades, à accepter la douleur quotidienne. Ce surinvestissement sportif peut s'entendre comme un mécanisme de défense pour traiter la violence du réel et ou fuir la rencontre avec son soi caché. La pratique sportive intensive présente les caractéristiques d'une conduite addictive visant la décharge rapide de toute tension psychique. Ainsi, la réalité perceptivo-motrice est surinvestie au détriment de l'élaboration psychique. Le sujet trouve ainsi de quoi éviter toute liaison affect-représentation. Ce comportement peut faire penser à une hyperactivité physique addictive, dans le sens où il y a focalisation sur une activité élective et évitement de la résonance affective. Que la dictée anticipe tout jaillissement affectif en reproduisant à l'identique ses moments de fuite avec son objet athlétique, et que le sujet recherche des sensations continuelles à partir d'une activation gestuelle exclusive qui tient lieu d'objet d'addiction comme parade substitutive à toute élaboration psychique possible d'un lien affectif. Une pratique sportive précoce et intensive a une fonction d'apprentissage de la maîtrise au détriment de l'acceptation de la défaillance. Aussi, les risques de décompensation dépressive sont culminants dans les cas où l'activité doit être abandonnée, brutalement, car l'adolescente est confrontée à son impuissance à se créer soi-même et à la révélation de sa dépendance persistante au monde sportif. S'ensuit un douloureux travail de symbolisation de la perte d'une illusion maintenue pendant le temps de la relation addictive. Donc ces parents qui souhaitent l'excellence pour leur enfant ne sont pas tous des tyrans. Beaucoup sont en conflit avec leur histoire. Une partie d'eux souhaiterait que leur enfant s'émancipe, pendant qu'une autre partie a peur de la liberté, du monde extérieur. Car beaucoup considèrent en effet que le monde d'aujourd'hui est menaçant, violent, et ils se replient sur le travail avec l'angoisse devant l'inconnu. Ainsi, les dérives issues du culte de la performance touchent désormais une population de plus en plus jeune. Dans certaines disciplines, les troubles anorexiques sont la norme. Le refus du féminin constitue un paradigme crucial dans la dynamique des remaniements pulsionnels qui touchent l'adolescente. Cependant, nous ne pouvons souscrire au culte de l'exploit et au souci du rendement lorsqu'il s'agit de jeunes mineurs. La pression formative qui pèse sur les adolescentes pose de graves questions éthiques. D'où la nécessité d'une prévention primaire des risques de décompensation dépressive et des conduites à risque en milieu sportif, qui doit s'adresser à la fois aux parents, aux éducateurs sportifs et futurs éducateurs, mais aussi aux médecins du sport. Un travail de médiation est à réaliser entre les différents référents par l'intervention de professionnels extérieurs au champ sportif. Au niveau du jeune sujet sportif, il est nécessaire de mettre en place un travail de réappropriation d'un processus d'individuation laissé en jachère, de renvoyer un message positif à l'adolescent en instaurant un cadre contenant et non instrumentalisant. Il est important de ne pas négliger sa parole.
Merci, merci beaucoup de cet éclairage qui ouvre d'autres perspectives sur la question des pratiques sportives qui a dû inquiéter les pères de beaucoup de pères présents ici, mais on va vous allez essayer de les rassurer au travers peut-être des questions, des commentaires. Moi, je vais peut-être tout de suite en avoir une à vous poser. Vous interrogez la pratique sportive donc chez les jeunes filles du côté d'une désexualisation. Alors, j'avais aussi l'idée, moi, que ça pouvait être une forme de déplacement. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas l'interroger autrement? C'est-à-dire, parce qu'il y a une sexualité des sportifs qui est quand même, on va dire, socialement alors, identifiée, qui existe, qu'on identifie par les faits divers, par des pratiques d'ailleurs. Pas toujours très saine de cette sexualité. Est-ce qu'on pourrait l'imaginer non pas au niveau d'une désexualisation, mais peut-être une forme de déplacement de la sexualité à l'adolescence?
Oui, effectivement. Alors après, c'est vrai que là, je me suis intéressée plus particulièrement aux jeunes adolescentes. Alors, est-ce que c'est pas plutôt sur des jeunes femmes qui osent peut-être exprimer leur sexualité, ou du moins... Voilà, alors après, je sais pas, c'est vrai que celles qu'on peut apercevoir à travers les médias sont quand même des jeunes femmes d'un certain âge. Alors après, au niveau de l'épanouissement sexuel dès le début de l'adolescence, je pense que dans le milieu de la GRS, ça peut poser question quand même. C'est vrai qu'il est rare de voir au niveau, ne serait-ce que du corps, des gymnastes avec des formes, avec des rondeurs féminines. Bon, c'est vrai que voilà, donc c'est notamment au niveau de l'épanouissement sexuel à travers le corps, en fait.
D'autres questions, remarques?
Alors malheureusement, je ne côtoie pas de gymnastes sur la fin de carrière. Donc j'aurais du mal à répondre à cette question, mais je pense que si le travail de fin d'activité, en fait, si ces gymnastes ont réussi une reconversion quelque part, à ce moment-là peut-être elles arrivent à s'exprimer, quoi, et à laisser libre cours à leurs désirs.
Oui.
J'attendais un mot, c'est le mot secte. Vous avez fait une description absolument caricaturale d'une secte. Alors le milieu sportif peut conduire à ça, on est d'accord. C'est pas exactement les objectifs affichés du monde sportif dans son ensemble, mais effectivement on voit régulièrement des dérives localisées parce que ça se passe mal, parce que il n'y a pas de régulation sociale suffisante. Il y a un sociologue tout à l'heure, hein, donc je suis bien d'accord. On attendait ça. Et effectivement, comme le professeur Bouvard, je pense qu'effectivement, le côté de la sexualité et pas, je ne suis pas certain que ce soit l'objectif primaire, peut-être dans les parents, dans les yeux du père, on est d'accord qu'il peut se passer des choses comme ça, mais dans une secte, l'objectif est de faire un groupe, d'avoir des comportements communs, d'arriver à des objectifs, enfin on est vraiment dans des systèmes comme ça. Et s'il faut passer par une utilisation de la sexualité ou par un repoussoir de la sexualité, c'est une méthode, c'est pas un objectif fondamental, comment je pourrais dire, c'est consubstantiel, l'objectif c'est un outil, c'est pas un objectif.
Hein. Alors en fait, moi, par rapport au mot secte, moi, je l'entends plutôt comme un mécanisme d'emprise, un peu. Hein, donc, oui, ce qui est à peu près similaire. Et bien sûr qu'heureusement, on n'a pas des dérives comme ça de partout. Et c'est la différence entre le normal et le pathologique. Et puis, bon, là, on est là pour parler du pathologique. Donc, voilà.
Oui. Donc, Frédéric Allaire, Nantes. Moi, je reviendrai un peu vers ce qu'avait dit Olivier Coste. Je voulais savoir si vous avez repéré un facteur libérateur de cette emprise paternelle sur qu'est-ce qui fait qu'à un moment, la gymnaste peut, enfin, vous citiez les gymnastes, peut échapper à tout ce processus. Est-ce que c'est un facteur physiologique, un facteur psychologique? Enfin, je ne sais pas. Est-ce que vous avez repéré quelque chose?
Alors. Non, parce que c'est vrai que je travaille pas particulièrement dans le milieu du sport, donc au niveau de l'expérience propre, j'aurais du mal à vous répondre. Après, j'imagine qu'il y a tout un remaniement psychique qui doit se faire à l'arrêt de l'activité sportive, et que c'est certainement ce remaniement-là qui va permettre à la personne de se réapproprier tout ça, quoi.
Oui, je vous remercie pour votre exposé, mais c'est vrai que ça fait un petit peu froid dans le dos quand on vous entend. Peut-être en effet en étant père déjà, mais ça c'est un autre détail. Vous prenez l'exemple de la GRS, et vous avez aussi parlé d'éthique, ce que je comprends très bien. Dans votre expérience, ce que vous nous avez décrit, c'est quelque chose de très fréquent, ça touche toutes les jeunes qui font de la GRS, ou est-ce que ce sont des cas? Parce que si ça touche globalement une grande majorité des jeunes qui font de la GRS, on est en effet dans des problèmes d'éthique et par rapport à des pratiques sportives. Donc, est-ce que vous pouvez resituer votre analyse par rapport à cette observation clinique?
Je vois ma collègue qui me fait signe.
Je te laisserai évidemment répondre, mais c'est pour apporter un élément de réponse sur cette question-là. Donc, Julie Jean, psychologue, je m'occupe entre autres des bilans psychologiques des sportifs en Languedoc-Roussillon. C'est des situations qui sont extrêmement fréquentes. C'est bien ça qui est intéressant dans ce qui a été présenté par ma collègue.
Une autre question?
Je voudrais juste que vous puissiez nous dire à quel type de GR vous faites référence. Est-ce qu'il s'agit de... D'abord, sur les âges, vous avez dit adolescence, donc c'est 13 à peu près. Après quel âge, s'il vous plaît?
Pardon. Alors là, il fonctionne? Oui. Je pense que ça va être sur des jeunes filles de 13, 14, 15 ans. Donc au moment où justement, enfin, je me suis intéressée au moment où la poussée pubertaire est censée arriver, où les formes se développent, où les filles commencent à s'intéresser à autre chose qu'à leur papa justement. Et donc voilà, ça serait plutôt dans cette tranche d'âge-là.
La question que j'aurais aimé vous poser, puis pour savoir un petit peu, pour échanger à ce propos, il se trouve que je travaille aussi avec des gymnastes rythmiques. Et je voulais savoir si vous êtes arrivé à démêler cette histoire qui fait qu'on ne sait pas ce qui fait l'entrée dans ce type de sport, au niveau d'une structure, d'une rencontre et d'un contexte, si vous avez réussi à retrouver des éléments de réflexion par rapport à ça. Est-ce que c'est le sport? Alors je vais rentrer dans des clichés qui créent la pathologie. Est-ce qu'on a une pathologie qui est présente? Et effectivement, ça, ces questions de prévention, à ce moment-là, elles ont tout leur sens pour aider et accompagner dans ce type d'entrée, dans ce type de sport. Est-ce que vous avez réussi à démêler un peu tout ça? Parce que je pense que c'est une question, en tout cas pour moi, que je considère fondamentale. Je n'ai pas le sentiment, en tout cas, maintenant je peux me tromper. On va attendre que l'ensemble des bilans psychologiques soient faits sur l'ensemble des athlètes pour pouvoir répondre. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi imaginer qu'on a aussi des fragilités qui font qu'on est plus ou moins, j'arrive pas à répondre à ça parce que je voudrais pas rentrer dans trop de clichés, mais attirés vers ce type de sport, on va dire ça comme ça pour aller vite, parce que je m'adresse ici à des professionnels, donc y met les nuances. Je sais pas, est-ce que vous êtes arrivé à démêler?
Moi, je pense qu'en fait, c'est que par l'environnement familial, par le noyau familial, déjà là, il doit y avoir une vulnérabilité et quelque chose qui... on ne choisit pas un sport pour rien, comme on ne choisit rien dans la vie pour rien. Donc, effectivement, alors après, certainement que les parents ont orienté vers ce type de sport parce que... on va faire découvrir à son enfant tel ou tel type de sport. Et après, là où justement on bascule dans quelque chose de pathologique, c'est quand ben c'est exclusif, il n'y a plus que ça. Alors après, je pense qu'au niveau de l'anorexie, certes, il y a certainement une fragilité issue d'un noyau familial ou d'une histoire ou d'un contexte comme ça. Mais... La pratique sportive et l'exigence qu'elle demande corroborent en fait. Donc c'est vrai qu'on choisit pas ça pour rien et donc effectivement ça fait sens.
On va passer donc le micro à Monsieur Pérou qui va nous parler des facteurs favorisant les troubles des TCA chez les sportifs.
Ok, voilà, je crois que ça marche. Donc je vais essayer de respecter le timing rigoureux du professeur Bouvard, merci pour votre accueil. Je me présente rapidement, je suis médecin psychiatre dans une clinique à l'autre bout de la France, en Haute-Savoie, et je m'occupe d'un service de 26 lits d'hospitalisation complète pour des personnes souffrant de troubles alimentaires, évidemment majoritairement des jeunes filles. Et voilà ce qui m'a conduit, j'ai pas appuyé sur le bon bouton, voilà ici. Voilà ce qui m'a conduit à constituer récemment un groupe de travail avec des patients et patientes concernés par sport de haut niveau et troubles de conduite alimentaire. On a commencé, c'est pas vieux, il y a 6-8 mois maintenant, on se réunit une fois par semaine. On travaille sur le mode du brainstorming, c'est-à-dire on demande aux patients et patientes de simplement jeter en vrac tout ce qu'ils ont à dire sur le lien qu'ils établissent entre leur pratique sportive de haut niveau et leurs troubles alimentaires. Et pour la petite histoire, intéressant de noter que ce sont des patients et patientes eux-mêmes qui avaient demandé à ce qu'on crée cet atelier, parce qu'ils se sont très vite rendus compte qu'ils étaient très nombreux en proportion à être concernés par un trouble alimentaire et d'avoir été des sportifs de haut niveau. Bien, les constats que j'ai faits, c'est les mêmes que tout le monde ici. Hein, il existe une fréquence plus élevée des troubles alimentaires chez les sportifs de haut niveau que dans la file active des gens soignés à la clinique où je suis, leur nombre, leur proportion est considérable. Et je ne crois pas que ça tienne particulièrement au fait qu'on soit dans une région haute de pratique sportive, parce qu'il y a les montagnes et donc beaucoup de skieurs, mais je crois que c'est assez répandu. Souvent, ce qu'on a trouvé aussi dans cette pratique, c'est les troubles démarrent souvent bien après de nombreuses années de pratique sportive. Donc, c'est pour répondre un peu à la question qui se posait c'est quoi la poule et l'œuf qui est en premier. Donc, c'est l'œuf sportif qui fait la poule anorexique. D'après. C'est une formule idiote. Mais... Alors, le sexe ratio, oui, on trouve à nouveau à peu près les mêmes proportions. Un homme pour 10 femmes. J'ai comme ça intuitivement l'idée qu'il y a peut-être plus d'hommes sportifs souffrant de troubles alimentaires, comme si le sexe ratio était un peu plus fort dans les sports. Mais c'est une intuition, ce n'est pas du tout vérifié par des lectures ni des enquêtes épidémiologiques précises. Il y a un truc qui veut absolument m'embêter, là. Ultérieurement. Très bien. Alors, les sports concernés, on les a cités tout à l'heure, je ne reviens pas là-dessus, on m'a demandé d'être bref. Alors, je me suis intéressé à essayer de résumer dans une conceptualisation précise les témoignages des personnes. Donc, c'est très prétentieux, j'essaye de comprendre à travers ce que me disent les personnes concernées. Le lien qui existe entre sport et troubles alimentaires, parce qu'il existe statistiquement, mais comment est-ce qu'on peut le comprendre? Alors, je suis parti de la conceptualisation des troubles alimentaires. Hein. Vous savez que il existe un modèle ou deux ou trois, mais pas beaucoup plus, qui ont fait leurs preuves, qui sont assez bien validés par les milieux scientifiques. Presque tous partent de l'idée qu'au point de départ, il y a un problème chez la personne concernée par le trouble alimentaire au niveau de son self-concept. Alors, je sais pas, on pourrait traduire ça « identité ». Et valeurs personnelles qui sont ou à définir, ou imprécis, ou pas assez sûres pour la personne. Dans le cas des troubles alimentaires, cette lutte contre un problème identitaire et un problème de déficit de l'image de soi ou de la confiance en soi est favorisée et, disons, oui, conduit à des restrictions alimentaires, se retenir de manger, maigrir étant... des événements très valorisés dans nos sociétés modernes. L'amaigrissement avec la dénutrition entraînant crise et purge, on peut dire qu'on a les deux modèles, anorexique en haut du tableau, boulimique en bas, qui en quelque sorte découleraient des mêmes processus. Qu'est-ce qui est commun maintenant chez les sportifs de haut niveau qui s'engagent dans la pratique intensive d'un sport. Je tiens à préciser que la plupart du temps, ces choix-là sont faits à des âges où les sujets ne sont pas vraiment assez matures pour faire des choix élaborés. C'est plus le fait du hasard, semble-t-il, dans les histoires racontées. En tout cas, ce qu'on apprend très vite dans la pratique d'un sport de haut niveau, c'est une compétence à contrôler ses émotions. Et nous sommes tombés assez vite d'accord avec les participants de ce groupe pour dire que ça, c'était probablement un des facteurs fondamentaux. Savoir contrôler ses émotions est nécessaire dans le sport et dans les troubles alimentaires. Et si on pratique un sport à un haut niveau, on est un surdoué du contrôle des émotions. Cette pratique permet aussi bien d'élever son niveau sportif que d'augmenter sa capacité à se restreindre, à ne pas manger autant qu'on devrait ou qu'on aurait envie. Ce qui est intéressant, c'est que la pratique de haut niveau entraîne de vivre des moments d'échec et pas mal des témoignages que je vais présenter après, et ça a été dit dans les conférences précédentes, ont été accompagnés d'accidents, hein, de blessures par exemple, qui ont été inauguraux des troubles alimentaires. On sait que les échecs, les accidents interrogent directement la valeur personnelle et l'identité. Et ces personnes vont se retrouver à devoir switcher, en quelque sorte, du sport de haut niveau au trouble alimentaire, comme si c'était une alternative pour répondre à leurs questions de fond. Qui je suis et qu'est-ce que je vaux ? Les succès ont curieusement un effet plutôt favorisant. Ils augmentent le besoin de performance. Et ils sont conditionnés dans pas mal de sports, ça a été bien vu ici et dit par les autres intervenants, pas mal de sports où la silhouette, c'est-à-dire l'esthétique, mais aussi le poids, donc tout ce qui est commandé par la nourriture, donne des résultats meilleurs. C'est-à-dire si vous avez telle silhouette et tel poids, vous avez de meilleures performances. Et là, on retrouve l'induction parfois de phénomènes restrictif et d'amaigrissement. Enfin, ce qui est commun aux deux pathologies, à la psychopathologie du sport et aux troubles alimentaires, c'est l'extraordinaire capacité à restreindre le champ de conscience. La pratique intensive, on l'a vu, de nombreuses heures par jour pendant des années, depuis la petite enfance, avec une hyper spécialisation dans un domaine de la vie, enferme les personnes dans un domaine. Autant que le trouble alimentaire peut enfermer les patientes que nous connaissons dans une spécificité, voire une identité d'anorexique ou de boulimique. Maintenant, si on reprend les critères connus favorisant les troubles des conduites alimentaires et qu'on les compare à ce qui se passe dans le sport, je me suis inspiré de l'EDI2, vous savez, l'inventaire des troubles alimentaires de Garner et Garfinkel. Et j'ai repris la plupart des items. Le premier d'entre eux, c'est la recherche d'un poids idéal qui est spécifique aux troubles alimentaires et qu'on retrouve dans énormément de sports. Bien entendu, tous ceux où il faut être léger et ceux aussi où il faut avoir une bonne silhouette. Ceux, enfin, où on doit atteindre des catégories de poids. C'est le cas des sports de combat. L'insatisfaction envers le corps, je vais l'illustrer tout à l'heure par des témoignages que j'ai enregistrés à partir de ce groupe. C'est très fréquent dans toutes les disciplines où les jeunes femmes doivent exhiber leur aspect, leur silhouette, leur physique. Elles sont confrontées au jugement au regard des autres. Le doute sur les capacités personnelles, qui est très élevé comme facteur d'entretien des troubles alimentaires, qui est fortement encouragé ou facilité par exemple, les compétitions, qui sans arrêt interrogent les compétences et les capacités. Le coaching critique, c'est-à-dire un rapport agressif, parfois avec un haut niveau d'émotion exprimée, vous savez que c'est un critère de décompensation psychologique fréquent, soit par la famille, soit par l'entourage sportif, soit par le coach. Enfin, les comparaisons entre les pairs qui augmentent l'inquiétude sur les capacités personnelles. Le perfectionnisme, je pense qu'à peu près tous les sports exacerbent le perfectionnisme. Or, c'est une des compétences les plus spécifiques retrouvées chez les personnes souffrant de troubles alimentaires, en soi compétence ou handicap, ça dépend comment on voit les choses. Il existe aussi un déficit interoceptif, c'est-à-dire la difficulté à percevoir clairement ce qui se passe en soi. Et en particulier, on trouve ça dans le sport. Il y a une sorte d'éducation à la négation de la douleur, de la souffrance, de la fatigue qui est liée à l'entraînement. Donc on voit bien qu'on exacerbe cette compétence. Il existe aussi un évitement de la maturité, ça a très bien été expliqué par vous juste avant, le grandir, devenir une femme, s'épanouir, passer les étapes de l'adolescence. Quelque chose d'hostile à la pratique du sport et du sport de haut niveau. C'est même une source d'échec ou de fin de carrière. Donc, il y a une sorte d'évitement de la maturité induit par le sport. L'ascétisme, qui fait partie des nouveaux critères qui ont été réajoutés par Garfinkel récemment, dont on se rend compte qu'il est un des moteurs puissants des troubles alimentaires, c'est la capacité à considérer que seules les choses difficiles à obtenir ont de la valeur. Souffrir est une bonne chose et ça permet de s'amender, de s'améliorer. Cette philosophie ascétique qui est extrêmement présente dans les troubles alimentaires est aussi très valorisée dans le sport. Et il existe un certain degré d'insécurité sociale, c'est-à-dire qu'en dehors du monde hyper spécialisé du sport, la plupart de ces jeunes femmes qui témoignent ici se sentent désinsérées socialement et en danger de ce point de vue-là. Et puis, l'hyper-contrôle, le contrôle de soi, dont on sait que c'est le noyau dur de l'anorexie, qui est très valorisé aussi par la pratique du sport.
Alors, j'envoie l'affaire en espérant que ça tourne. Est-ce que ça va là ?
Alors, je m'appelle Elodie, j'ai 24 ans. J'ai pratiqué la danse classique depuis l'âge de 4 ans et demi jusqu'à mes 17 ans et demi. Au départ, j'en faisais comme un loisir, en fait, quelques heures par semaine. Et puis, rapidement, j'en ai fait un peu plus. Puis vers mes 12-13 ans, j'ai commencé à en faire dans les 6 heures par semaine, avec des heures de pointe, des heures de néoclassique. Donc ça s'est un peu accentué, j'aimais beaucoup ça. Et puis ensuite, je suis arrivée jusqu'à 8 heures par semaine. 8 ou 9 heures, ça dépendait des semaines. Je souffre aujourd'hui d'anorexie mentale depuis 7 ans maintenant. Par rapport au sport, j'ai pu me rendre compte que mes troubles ont commencé lorsque j'ai arrêté la danse. N'ayant plus d'activité physique, j'ai compensé avec la nourriture. Pour moi, l'effet majeur de la danse classique par rapport à mon trouble, c'est surtout l'exposition du corps, d'abord lors des cours de danse, donc l'exposition permanente devant les miroirs. Il y avait 4 miroirs, donc toute la pièce était entourée de miroirs. Donc il y a pas mal de comparaisons avec les autres, on est en tutu, donc on n'est pas beaucoup habillé. Les différences au moment de la puberté se voient. Et elle se voit tout le temps. Donc quand les hanches s'enrobent, quand la poitrine se développe, c'est vrai que c'est pas forcément évident à vivre, ni à masquer, ni forcément en accord avec ce sport-là, qui pratiquer la danse. C'est vrai que le fait de prendre des formes, de devenir une femme, n'était pas quelque chose de naturel, en fait. Voilà, pour moi, c'était quelque chose où j'avais je pouvais avoir une influence et quelque part où il fallait presque lutter contre pour continuer à être performante en danse et à être aimée aussi de la professeure, puisque c'est vrai que elle faisait pas... L'important pour elle, c'était aussi nos performances, quoi. C'est-à-dire qu'elle faisait attention aux élèves qui étaient doués et qui avaient une corpulence qui permettait d'aller plus loin dans la danse. Et c'est vrai qu'on sentait nettement que les jeunes filles qui étaient un petit peu plus enrobées, ou bon ben voilà, elles n'avaient rien à faire ici quelque part. Elles étaient là parce que les parents payaient, parce que bon ben voilà. Mais la prof, elle n'avait rien à faire, quoi. Elle sentait bien qu'elle ne pouvait pas pousser cette jeune fille plus loin. Et puis ben, le monde de la danse, c'est vrai que c'est l'image de la danseuse. On la voit musclée, fine, élancée. Et voilà, c'est quelque chose, c'est un idéal qu'il faut atteindre lorsqu'on se crée et qu'on grandit avec une identité de danseuse. Voilà. Même devant les autres, les copines, à l'école, tout le monde sait. Ah, elle fait de la danse, donc on attend un port de tête, une certaine tenue, voilà, un certain poids aussi. Et je pense que ça a beaucoup joué. C'est pas le seul facteur de mon anorexie aujourd'hui, mais je pense que ça a beaucoup joué, toutes ces années de danse, au développement du trouble.
J'ai pratiqué un sport qui m'a porté beaucoup, puisque c'était un sport complexe qui combinait deux épreuves et qui m'a permis de développer des compétences en termes de maîtrise, de contrôle de soi, et qui m'émerveillait vraiment, puisque je me rendais compte que j'avais une capacité à gérer de plus en plus, de façon intense, le stress, l'émotion, la maîtrise du corps, des mouvements, la maîtrise de la vitesse gestuelle, puisqu'on avait des épreuves qui devaient se dérouler intensément sur le terrain, et puis après un moment passer à l'épreuve de tir où on devait avoir contrôler sa respiration, son émotion, ses battements de cœur et tout ça. Et c'était tellement intense que ça m'a permis d'avoir une maîtrise totale sur mon corps et sur ma tête, on va dire. Et ça, c'est des choses qui sont fabuleuses. En revanche, on se rend compte qu'on arrive à un tel degré de perfection que si quelque chose, un petit grain de sable se met dans la machine, quelque chose nous échappe, on est complètement déstabilisé. Et malgré tout, on est tellement dans cette théorie de l'engagement qu'on ne le reconnaît pas, qu'on veut continuer à avancer, avancer, avancer. Et c'est ce qui m'a conduit un petit peu à ce que lorsque j'ai été un peu confronté au début des troubles alimentaires, et bien, finalement, je me suis rendu compte que cette chose-là m'échappait.
Bon, voilà, je suis heptathlète, pardon, de haut niveau. J'ai fait de l'athlétisme du collège jusqu'à mes années de fac. Et donc voilà, très vite, grâce à mes compétences de base, je me suis vite lancée dans l'heptathlon avec un coach qui a vite mis la main sur moi, entre guillemets. Donc vu que j'étais assez timide et réservée, je me suis lancée complètement dans l'athlétisme. C'est vrai que grâce à ça, j'ai pu avoir une certaine reconnaissance sociale. Ça me permettait d'exister aux yeux des autres et c'était bien agréable d'apparaître aux yeux des autres comme une championne. Donc le revers de la médaille, c'est vrai que c'est un petit peu la concession, l'oubli de la douleur. C'est vrai que j'avais tendance à me dire à mon entraîneur, j'ai mal, ben non, c'est dans ta tête. C'est pas ton corps qui parle, c'est bien ta tête. Donc je me disais, si l'entraîneur le dit, c'est vraiment qu'il a raison, c'est qu'il connaît son travail. Et donc c'est vrai que pour moi, c'était un petit peu ma star, mon idole, c'était comme un père en fait. Et je faisais confiance à 200%. Et j'ai été bien déçue, même très très en colère quand je me suis blessée, quand j'ai dû faire face seule à la blessure, parce que c'est vrai que l'entraîneur, il est présent, il est là quand on fait des résultats, quand la machine avance, et quand l'entraîneur peut exister à travers les performances de son athlète. Et c'est vrai que dès qu'une pièce de la machine est en mauvais état de fonctionner, dès qu'on n'apporte plus rien, on représente plus rien, quoi. On passe de l'étoile à l'épave, et j'ai très très mal vécu ce passage assez délicat. Donc maintenant, ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui, c'est d'avoir, 10 ans après, une certaine reconnaissance de ma valeur à l'époque et certaines excuses. Mais bon, ça, je sais pas si l'entraîneur sera apte à se remettre en question ou pas. Je veux juste passer le message comme quoi on n'est pas des machines quand on est athlète et on a un corps. C'est pas un outil. C'est vraiment dommage qu'on soit pas plus à l'écoute, quoi.
J'ai 17 ans et demi. Je pratique l'équitation depuis 13 ans en compétition. Et je pense que le rapport entre le sport et les troubles alimentaires, il se situe dans le fait qu'il y a majoritairement des filles, très très peu de garçons. Donc il y a une grande rivalité entre elles et surtout au niveau physique. Donc il faut être... en plus, l'équitation, ça demande une finesse, une grâce et les vêtements sont très serrés. Donc ça met en valeur encore plus les silhouettes fines. Et puis donc la rivalité entre jeunes filles et jeunes femmes vis-à-vis du peu d'hommes qui pratiquent l'équitation, c'est vraiment intense. Donc les commérages, les comparaisons au niveau du corps. Aussi le fait que pendant les compétitions, juste avant, on mange très peu parce que c'est pour pas être lourd sur le cheval. Donc ça entraîne aussi des comportements un petit peu néfastes pour la santé, parce qu'avant la compétition c'est quand même intense, le moment du concours, et on se prive de nourriture en quelque sorte. Et puis après, c'est vrai que c'est un peu... Enfin, on fait un dîner généralement après et on se mange un petit peu plus, donc c'est déjà la base de ça, quoi.
Donc en fait, je m'appelle Séverine, donc je souffre d'un trouble comportement alimentaire depuis 10 ans. Celui-ci s'est devenu plus important en fait quand j'ai commencé de la boxe anglaise, donc il y a 4 ans. Le sport a été un facteur important au niveau du trouble, puisqu'il me demandait de respecter une catégorie de poids. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on reste à un poids fixe, surtout la veille des combats. Une semaine ou deux avant le combat, on s'aperçoit qu'on est trop loin de notre catégorie, on commence à faire des privations, des restrictions, voire des séchages. Au niveau sportif, le séchage est très important, avec des entraînements qui viennent de plus en plus intenses, des pesées avant et après l'entraînement. Très vite, on m'a conditionné à contrôler mon alimentation, à contrôler mes efforts physiques pour pouvoir arriver à une perte de poids rapide, surtout avant les combats. Et ensuite, c'était suivi, donc après un combat, d'une perte de contrôle, parce qu'on se privait tellement pendant le temps de sèche que généralement, ensuite, on se jetait sur la nourriture. C'est ce qui fait que très vite, j'ai pris l'habitude de me sécher sur plusieurs mois et ensuite de me lâcher complètement sur la nourriture. Ce qui a entretenu, voire créé, mon trouble du comportement.
Je m'appelle Nadia, j'ai 25 ans. J'ai pratiqué la gymnastique artistique pendant 10 ans. Mes troubles alimentaires étaient présents déjà avant la pratique de la gymnastique. Mais ça, en fait, a été un facteur qui a accentué le trouble, dans le sens où ça a accentué les restrictions alimentaires.
J'ai 23 ans, j'ai fait du taekwondo et du ski, surtout de haut niveau, enfin à un niveau national, depuis l'âge de... J'ai commencé le ski à l'âge de 4-5 ans, les compétitions vers 6-7 ans, et après tout s'est enchaîné. Je souffre actuellement de troubles alimentaires, enfin de type anorexie avec purge, c'est élégant. Et ce que j'aimerais dire sur le sport, tout d'abord, c'est... Il faut bien faire la distinction entre sport de loisir et sport de compétition. Et même dans la compétition, le type d'investissement qu'on va donner au sport. Pour ma part, c'était vraiment le sport a phagocyté tout le reste. Il n'y avait plus que le sport. Et finalement, je pense que le danger, c'est de se perdre dans cette identité de sportif et de n'être, de ne vivre et d'exister que pour ça. Et de trouver une identité que sur le podium, que sur la première marche du podium. Et sinon, avoir la sensation d'être un raté, d'être nul, de ne pas avoir de valeur. Sinon aussi, je pense que ce qui fait le lit des troubles alimentaires, c'est l'investissement assez particulier du corps et un rapport impersonnel. En fait, le corps devient un objet. Il y a comme en fait une dissociation entre soi et son corps. Son corps, c'est un outil, c'est un vecteur pour se valoriser, pour être quelqu'un. C'est une machine à performance, en fait. Et il y a un rapport de toute puissance, de domination dans le corps, où en fait, c'est un corps à modeler, à créer, dont on est responsable. Et finalement, on se doit d'être compétent, d'être performant pour être quelqu'un, je pense. Et c'est en cela que lorsque la pratique du sport s'arrête, on peut retrouver ce rapport dans l'anorexie, enfin dans le contrôle alimentaire, en le dominant, en le modelant aussi, parce que dans la perte de poids, il y a un sentiment de contrôle, de toute puissance aussi. Et on n'a pas de... Par rapport au corps, on n'a pas une relation saine dans le sens où il n'y a pas vraiment de sentiment de tendresse, d'amour. C'est plutôt utilitaire, en fait, très utilitariste. Mon corps va me permettre d'être fier ou d'être déçu et honteux. Mais en aucun cas, il y a de la pitié ou de la compassion par rapport à son corps. C'est vraiment une machine à exister, une machine à se valoriser.
Ce sont des témoignages tout à fait émouvants et intéressants. On a le temps donc de deux, trois questions.
Oui, Frédéric Depièce, je suis de Toulouse, je suis médecin conseiller jeunesse et sport et en même temps je suis président de la commission médicale de la Fédération française d'athlétisme. Et comme vous l'avez vu, et je vous remercie de ces témoignages, l'athlétisme est un sport touché par cette question des TCA. Moi, je voudrais vous demander si vous êtes intéressé, on est en train de créer un groupe de réflexion sur cette question pour écrire un guide méthodologique à l'usage des entraîneurs. Parce que je pense qu'il y a un élément essentiel et un homme ou une femme essentiel, effectivement, et je crois que ça a été très très bien rappelé par notre heptathlète, c'est la place de l'entraîneur dans cette question des troubles du comportement alimentaire. Et donc s'il y a des gens dans cette salle qui sont intéressés pour nous rejoindre dans ce groupe de réflexion, ben, je suis là toute la journée, qu'ils n'hésitent pas à venir me voir, ce sera avec grand plaisir, et effectivement que ce soit des centres de soins comme le vôtre, ou des centres de sportifs de haut niveau, ça nous intéresse de pouvoir communiquer et travailler sur cette question d'écriture d'un guide méthodologique. Voilà, merci beaucoup.
Moi, c'est plus une remarque que j'aimerais faire et pourquoi pas échanger avec le groupe. Donc, Karine Noget, psychologue du sport sur Montpellier. Je voudrais un petit peu faire remarquer que on a trop souvent tendance à dire le sport fragilise par rapport aux troubles des comportements alimentaires. Maintenant, j'aimerais savoir si vous avez pris la distance suffisante pour repérer qu'est-ce qui était premier et qu'est-ce qui était secondaire. Est-ce qu'il y avait une fragilité narcissique, un trouble de la personnalité qui était là sans être révélé et qui a été révélé par le sport? Est-ce que le sport révèle certaines TCA, certains troubles du comportement alimentaire qui ne seraient pas là s'il n'y avait pas eu sport? C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il n'y a pas deux TCA dans le sport, une qui serait finalement révélée par le sport et une qui serait provoquée par le sport?
Oui, je crois que c'est une question essentielle et pour l'instant, je pense que personne au monde n'est capable de répondre. Mais il y a au moins des pistes de travail. La première, c'est qu'effectivement, on sait que statistiquement, il y a beaucoup plus de personnes touchées par les troubles alimentaires parmi les gens pratiquant un sport de haut niveau. Donc, il semblerait quand même qu'il y ait au moins une congruence, mais ça ne veut pas fatalement dire, une corrélation ne veut pas dire une explication. Ce qu'on sait aussi, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ma présentation, c'est qu'il existe des prédispositions communes aux deux, par exemple le perfectionnisme et le doute sur la valeur personnelle, qui sont les deux préalables des traits de personnalité retrouvés le plus fréquemment chez les personnes souffrant de troubles alimentaires, sont apparemment aussi très performants dans le domaine du sport. Donc on pourrait imaginer, comme c'est un peu ce que vous supposez, qu'on peut être prédisposé aux deux, donc si on va avoir plutôt tendance à développer un trouble alimentaire d'autant plus volontiers qu'on a été aussi capable d'être bon sportif. Mais je crois aussi pouvoir dire qu'il y a quand même, dans le modèle que j'essaie de présenter, l'idée qu'on exacerbe des compétences en quelque sorte, à contrôler la douleur, contrôler les émotions, s'abstraire du monde, faire qu'une seule chose, etc. On exacerbe des compétences qui sont propices aux troubles alimentaires. C'est pour ça que les témoignages semblent dire bah, y a les deux. Il y a des prédispositions communes, ce qui fait qu'on va être prédisposé à être bon en sport et en troubles alimentaires, en quelque sorte, et des facteurs qui encouragent l'un et l'autre. Avoir un trouble alimentaire est par moments facilitant dans le sport, et faire du sport de haut niveau est facilitant pour le trouble alimentaire. Donc, à mon avis, tout est vrai, mais un petit peu.
On va prendre encore une question, puis je donnerai ensuite la parole pour la conclusion de cette première session.
Bonjour, Laurent Travigny, je ne suis pas une ex-gymnaste ou une ex-danseuse, mais j'avais une question concernant un aspect des présentations qui ont été faites jusqu'à maintenant, et peut-être avec une distinction particulière. Est-ce que statistiquement, il y a une différence notable, alors au-delà de l'aspect sexué, entre les sports, au-delà des sports esthétiques ou des postes ou des sports à un poids contrôlé, est-ce qu'il y a une différence entre les sports collectifs et les sports individuels? Et éventuellement, est-ce que dans les aspects ou non protecteurs du sport face à ces troubles de comportement, ouais. Est-ce que, au-delà de l'aspect protecteur du sport, est-ce que le sport collectif, est-ce qu'en fait l'imprégnation dans la logique collective est un protecteur de plus ou un évitement de plus à ce genre de comportement?
Ouais. Les statistiques vous donnent raison. Si on peut affirmer que la pratique de sport de haut niveau est fragilisante par rapport aux troubles alimentaires, on sait que c'est surtout les sports dans lesquels il faut être léger ou avoir une silhouette agréable ou un poids stipulé par des catégories de poids. Mais le sport collectif est beaucoup moins représenté quand on analyse sport par sport, les sports co seront beaucoup moins représentés dans les troubles alimentaires que les autres. Donc il semblerait que ce soit peut-être pas protecteur, mais en tout cas...
Voilà, on va s'arrêter là pour les questions, je vais passer pour les conclusions. Je me faisais la réflexion que vous étiez en train de... plus on parle d'activité, plus vous étiez immobile. Il y a peut-être une corrélation en tous les cas. Bravo d'être resté aussi attentif et immobile alors qu'on n'a pas arrêté de parler d'exercice, de gymnastique et de l'athlétisme.
Oui, non, j'aimerais apporter et continuer cette discussion en apportant un petit point de vue sociologique. Je pense que les questions, d'un point de vue sociologique, les questions du trouble du comportement alimentaire sont essentiellement liées à des questions de maîtrise et de contrôle de soi. Or, les normes de l'individualisme contemporain aujourd'hui mettent en avant pour tout un chacun de nous, ces questions d'autocontrôle, d'autonomie des individus, de responsabilité des individus vis-à-vis de ces pratiques. Donc il y a une corrélation entre ces normes sociales partagées par la collectivité et ces questions du trouble du comportement alimentaire, parce qu'il y a un lien. Et je crois que les sportifs de haut niveau en particulier, représentent un idéal type de cette notion de responsabilité et d'autocontrôle de soi. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, la surreprésentativité des troubles du comportement alimentaire chez les sportifs, en particulier chez les sportifs de haut niveau, d'un point de vue sociologique en tout cas, il y a quelque chose à travailler. Autre remarque, alors il se trouve que je n'ai pas travaillé sur les sportifs, mais j'ai beaucoup travaillé sur les régimes amincissants. Or, les régimes amincissants au féminin, plus précisément. Or, par rapport à la série de témoignages que nous avons pu voir, je crois qu'il y a quelque chose qui, moi, m'a frappé, c'est cette dimension d'instrumentalisation du corps. Le corps est un outil, et donc on va le dernier témoignage, on va façonner, mouler ce corps en fonction de performance, en fonction de poids, s'il y a des limites de poids, des catégories de poids imposées, en fonction d'une certaine esthétique, etc., etc. Or, quand on regarde les comportements de régime, tels que j'ai pu les étudier, en particulier dans les débuts de carrière, parce que le régime, c'est une longue carrière avec des chutes, des reprises, etc. Les débuts de carrière de régime sont marqués par ce rapport au corps instrumental. Le corps est un objet qu'on va façonner par des méthodes alimentaires, voire aussi par la prise de médicaments, de certains médicaments qui permettent de maigrir. Donc là encore une fois, et les personnes que j'ai interrogées n'étaient pas des sportifs, donc encore une fois, je pense qu'il y a une congruence. Je voudrais terminer sur deux questions et une corroboration par rapport à la remarque qui a été faite. La première question, c'est celle de la différence des genres. On remarque, que ce soit chez les sportifs ou dans la population générale, que l'anorexie et les troubles du comportement alimentaire touchent plus particulièrement un public féminin. Alors, est-ce uniquement une question de normes esthétiques plus fortes pour un public féminin, ou est-ce, et je pencherai, mais je n'ai pas de réponse pour la deuxième hypothèse, est-ce une question d'autocontrôle sur le corps plus fort pour les femmes? Enfin, dernier point, par rapport au sport collectif, au sport individuel, effectivement, je pense que ces notions de responsabilité et d'autocontrôle sont survalorisées dans le sport individuel. Ou en tout cas, il y a un facteur en plus qui joue, que peut-être est moins présent, ou en tout cas pas de la même manière, dans le sport collectif, ce qui expliquerait peut-être cette différence. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ces questions.
Merci. Donc nous allons clore cette première session. Les techniciens m'ont rappelé, c'est important, en remerciant tous les intervenants.